J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien.
Un vrai tueur, le meilleur de toute la ville.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il a pas de prénom.
Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là ?
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Scope, l'émission de Radio Campus de l'ULB, l'Université Libre de Bruxelles, consacrée au cinéma. Je suis Mathias et je vous prie de m'excuser toutes nos auditorices pour ce retard inhabituel dû à notre très cher Stib qui a le droit parfois de mal fonctionner. Il n'y a pas de problème, c'est le service public, c'est aussi pour ça qu'on les paie, on ne peut pas toujours être parfait. Aujourd'hui, une émission spéciale pour parler d'un film belge qui va sortir tout bientôt et en présence de son réalisateur. Je vais d'abord présenter mes comparses à la chronique aujourd'hui. Nous avons d'abord Priscilla. Salut Priscilla.
Salut.
Et nous avons Sarah. Comment tu vas, Sarah ?
Mais ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous. Très contente d'être de retour.
Et nous avons donc, comme je le disais, un invité aujourd'hui qui s'appelle Thomas Licata. Salut Thomas.
Hello, bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur Radio Campus pour parler donc de ton film qui s'appelle Retour à Fukushima, qui est un documentaire qui se passe donc sur le site de la catastrophe industrielle de Fukushima une quinzaine d'années après et au cours duquel donc on suit les habitants des lieux, ceux qui sont partis, certains qui sont restés. Donc c'est un documentaire assez intimiste que tu as réalisé. Donc date de sortie, oui c'est ça, 2026 si je dis pas de bêtises. Et donc la date de sortie en salle, est-ce que tu peux la rappeler? Je crois que c'est en juin.
Aujourd'hui.
Ah oui, voilà, bah c'est ça. Il y en a une aujourd'hui, ok. Mais il me semble qu'il y a aussi une l'avant-première, c'était hier, c'est ça ?
Non. L'avant-première est à Liège aujourd'hui.
Ah voilà, c'est ça. Il y a Liège aujourd'hui et il y a Bruxelles plus tard.
Bruxelles le 26.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, j'ai vu qu'il y en avait une à Namur aussi, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est à Namur, ce sera aussi à Louvain, et puis ça va continuer encore après les vacances.
C'est ça, plusieurs ciné-débats dans le reste de la Wallonie, de ce que j'ai compris.
C'est ça, et en Flandre aussi.
Où est-ce qu'on peut retrouver les infos, si on n'est pas bruxellois, pour savoir où le film va être diffusé ?
Alors, on a fait simple, vous allez sur retouratfukushima.com.
Ah ben, ouais. Fantastique.
Facile. La première question que je voulais te poser par rapport à ce film, Thomas, c'est déjà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce site qui est super loin de la Belgique pour tourner ça ?
C'est déjà une vaste question. Alors, à la base, donc, moi, je m'intéresse à la science-fiction. J'ai envie d'amener de la science-fiction dans le documentaire et dans le réel. C'est un peu ma patte, on va dire, dans mon travail de cinéaste. Et du coup, quand je cherche des sujets, je cherche des sujets qui vont me permettre de partir un peu dans ces délires-là d'un point de vue formel, de son et de narration. Et donc, j'ai travaillé sur plusieurs sujets auparavant, par exemple des personnes qui se congèlent pour s'aller dans le futur, aux États-Unis, ou des villes fantômes qui se construisent en Chine. Et en fait, le nucléaire, c'est un élément auquel je pensais depuis longtemps, parce que je suis un enfant des années 90, que j'ai regardé des mangas, que j'ai lu beaucoup d'œuvres avec des personnages qui vivaient dans des mondes post-apocalyptiques. Et donc, quand j'ai appris l'accident de Fukushima, je me suis dit, ouais, c'est un truc de dingue, ce territoire a l'air complètement dévasté. Et en fait, j'ai lu beaucoup sur le sujet et j'ai découvert que c'était pas du tout ce qu'on pensait. C'est pas forcément des zones désertes et des zones vides, c'est plutôt maintenant des zones où on pousse les gens à revivre. Et en lisant un article de sociologie sur le sujet, j'ai eu cette idée qui m'est venue et qui a mûri en moi pendant plusieurs années. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut y aller, quoi. Et je trouvais que pour parler du nucléaire, Fukushima, c'était intéressant parce que contrairement à l'accident de Tchernobyl où on a scellé un endroit, là, on voit une dynamique qui se met en place qui est plutôt de accepter et faire accepter de vivre dans des espaces contaminés. Et c'était vraiment ce sujet-là qui m'intéressait. Et puis à côté de ça, j'ai une passion personnelle pour le Japon et les Japonais.
C'était ma question d'après.
J'ai appris la langue, etc. Mais je te laisse poser ta question.
D'accord. Non, mais du coup, t'as en partie répondu. Mais j'allais dire, du coup, le lien avec le Japon, tu viens de le dire. Mais j'imagine que ça a dû demander aussi quelque chose d'en particulier. Parce qu'il faut avoir, j'imagine, des autorisations pour filmer sur place, que les habitants acceptent qu'un Européen sorti d'un de ces zoos vienne les interviewer. Et en plus, je sais pas à quel point tu parles le japonais, mais j'imagine que t'as dû t'entourer aussi d'une équipe de traduction. Donc c'était toute une organisation.
C'est ça. Alors, c'était super facile de tourner, mais je vais expliquer pourquoi après. C'était pareil aussi. En fait, en général, hein, dans les films documentaires, j'entends bien, quand on tourne en équipe réduite, c'est assez simple. de tourner. Parce qu'il y a beaucoup de législations dans beaucoup de pays qui partent du principe que bah, c'est quand tu poses un pied, donc, où tu vas poser ta caméra sur un pied, etc., sur le sol, bah là, à partir de ce moment-là, tu peux potentiellement avoir besoin d'une autorisation, mais quand tu fais des plans plutôt en suivi, à caméra épaule, etc., bon, c'est pas des plans volés, on va pas appeler ça comme ça, mais ça demande pas le même type d'organisation et le même type d'autorisation. Et en plus de ça, on travaille avec du matériel assez léger, donc on n'a pas l'air d'une méga équipe de cinéma, donc on est assez discret. Et donc les autorisations, ça va plutôt être des autorisations par rapport aux personnes qu'on filme, quoi. Donc les personnages du film. C'était quoi ta question juste avant?
J'ai un peu c'était au niveau du coup de la barrière de la langue.
Oui, c'est ça. Et donc pour la barrière de la langue, en effet, donc, j'avais lu cet article de sociologie qui traitait de ces zones urbaines qui se reconstruisaient dans des espaces contaminés. Et j'ai contacté en fait la sociologue qui a travaillé sur ce sujet, qui s'appelle Cécile Azanouma-Brice, qui est une chercheuse du CNRS basée à Tokyo et qui est bilingue du coup. Et donc, je suis parti, je l'ai rencontré. Elle a fait une exposition à Paris. Je l'ai rencontré, et puis elle m'a proposé de venir à Tokyo. J'étais à Tokyo, je l'ai rencontré. Puis de fil en aiguille, elle m'a fait rentrer dans son circuit. Et là, j'ai rencontré les personnages du film. J'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé sur place. Et en parallèle, moi, j'apprenais la langue. Mais au début, c'est vrai que j'avais pas un niveau assez bon pour pouvoir m'exprimer et pouvoir entrer en profondeur dans des discussions. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec Cécile et son fils qui m'ont aidé à la traduction sur place, quoi.
Super.
Trop bien. Quand tu parles d'équipe réduite, ça ressemble à quoi, en fait?
Ça ressemble à moi, avec un ingénieur du son et un cadreur. Donc, c'est une caméra, une perche et un mec qui traduit, quoi.
Oui, donc, on fait pas plus simple ou à peu près, quoi?
On peut faire encore plus simple. Hein. Maintenant, t'as plein de docu qui se tournent même avec un iPhone. En fait, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, le rapport à l'image dans le documentaire a vachement évolué. Avant, ça demandait beaucoup plus de matériel, beaucoup plus de connaissances techniques. Et aujourd'hui, n'importe qui peut faire un documentaire. Et ça peut être très bien, parce que ça peut permettre de créer des nouvelles formes de narration inattendues, qui sortent complètement des circuits. Ça peut aussi créer un surplus de matière vidéo, et des fois, on ne sait plus où donner de la tête. Mais je pense que c'est plutôt bien, en fait. C'est plutôt bien qu'il y ait ces nouvelles formes qui émergent et cette possibilité à n'importe qui de pouvoir faire un documentaire. Donc, l'équipe la plus réduite que tu peux faire, c'est toi avec ton téléphone, en fait.
Et on ne se rend pas très bien compte dans le film. Combien de temps vous êtes resté sur place, finalement, pour poursuivre ces personnes, récolter ces témoignages et vous habituer à la vie sur place?
Merci pour ta question, c'est chouette. Donc, ça prend en général 3 ans, je dirais, d'expérience de documentaire, en tout cas tel que moi je le fais, pour obtenir la confiance des gens, pour avoir le temps de vraiment capturer des moments de sincérité. Ça prend du temps, quoi, juste d'être dans une forme de sincérité avec les personnages. Et donc, ça passe d'abord par une acclimatation à la caméra. Ça prend le temps des repérages, je dirais bien un an. Enfin, pas un an continu, mais c'est des retours, on retourne sur place, etc. Alors moi, évidemment, je me posais la question aussi de toujours prendre l'avion, alors que je fais un discours qui est plutôt écologiste, c'est un peu déconné, quoi. Donc on essayait de rester longtemps sur place, donc c'était des longues périodes de tournage. On tournait pas tous les jours, mais on restait avec les personnes, on faisait des activités avec eux. Et donc je dirais qu'en cumulé, c'est presque un an de tournage, quoi. Mais pas en rush. En rush, on avait une 60aine d'heures, quoi, de rush.
Et comment on finance un projet pareil?
Centre du cinéma, si tu nous entends.
En fait, il y a plein de moyens. Il y a plein de moyens, mais c'est de plus en plus difficile. Je dirais que la manière la plus simple pour commencer, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, c'est que je vais voir la SCAM. Et en fait, la SCAM, donc Société des compositeurs, auteurs, musiciens, c'est ça. Yes, j'ai réussi à dire l'acronyme pour une fois, ils proposent des petites bourses d'écriture ou de repérage, ça va entre 1000 et 5000 euros. Ça, déjà, ça te paye ton billet d'avion. Donc ça, c'est pas mal. Mmh. Et pour des repérages, ça te permet après, avec ce financement, d'aller faire des photos, de constituer ton dossier, que tu vas après aller déposer à des endroits qui vont te financer avec des montants plus élevés. Alors pour Bruxelles, tu as le CBA, donc c'est le Centre Bruxelles Audiovisuel. En Wallonie, tu as l'équivalent, c'est le WIP, Wallonie Image Production. Après, j'arrête avec les acronymes parce que je vais dire des conneries à la fin.
T'es trop fort, régale-nous.
et donc, tu passes par ces ateliers. Donc, je pense qu'on appelle ça des ateliers de production, il me semble. Et eux, ils vont avoir des montants un peu plus élevés pour t'aider aussi à faire ton film. Donc, tu écris ton dossier. Donc, tu es en concurrence avec d'autres personnes aussi. Hein. Et comme je vous le disais, il y a plein de moyens de faire des documentaires. Donc, il y a de plus en plus de gens qui veulent en faire. Donc, il y a de plus en plus de concurrence et il y a de moins en moins d'argent. Mais il y a quand même de l'argent. Donc, il y a quand même moyen. Et donc, tu déposes ton projet à ces ateliers-là. Et puis, une fois que tu as un truc un peu solide, tu peux aussi aller voir des télévisions. Alors, je pense même qu'aujourd'hui, la télévision est devenue incontournable, notamment la RTBF pour le côté francophone.
Pour le documentaire en particulier ?
Ouais, parce qu'en fait, ça va être, on va dire, plus facile d'avoir un financement de la RTBF au début. C'est par exemple 10 000 euros hein, pour parler cash, voilà. Parce que si tu es accompagné d'une boîte de production, en général, ils se connaissent. Enfin voilà, ça va de soi, quoi. On commence par la RTBF. Et quand tu as la RTBF, ensuite, le reste va suivre, quoi, au fur et à mesure. Mais la principale source de financement, c'est la commission du film, qui est le centre audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le CCA.
Le CCA, merci. Et là, bah, là, on est sur des vrais montants de tournage. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que notre documentaire, c'était plus ou moins 300 000 euros de budget. Et ça a été... Là, on n'a même pas encore touché tout l'argent. Hein. Et ça fait plus de 3 ans que je travaille dessus. Donc c'est bien de s'accompagner aussi d'une boîte de production qui a une trésorerie et qui peut avancer l'argent avec ensuite en sachant que tu vas passer des commissions qui vont te dire tu vas avoir l'argent dans un an, mais ta boîte de production peut déjà avancer l'argent quoi. Donc voilà, en gros c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et puis moi aussi je fonctionne sur fonds propres. Alors je dis tout de suite, je suis pas riche hein, mais voilà, il y a un moment, si tu veux avancer dans la vie, hein, que ce soit pour faire un film ou n'importe quoi, il faut aussi que tu mettes un peu de ta poche. Donc moi, mon premier billet d'avion, je l'ai payé, quoi. Voilà.
Mais du coup, moi, pour revenir aux témoins, je me demandais comment vous avez sélectionné dans toutes les personnes que vous avez rencontrées, qu'est-ce qui faisait que c'était ces trois personnes-là qui étaient un peu ressorties principalement pour votre film.
Qui sont des personnes âgées, si je peux compléter, parce que je pense que ça a son importance aussi.
Oui, comme 64% de la population japonaise. on a rencontré beaucoup de gens. Et il y a plein de personnages qui étaient chouettes, qu'on a filmés aussi, mais qu'on n'a pas mis dans le film parce que tu vas avoir un écrémage dans ton repérage. Donc tu te dis, tu te rends compte que cette personne-là, elle est vraiment pas à l'aise avec la caméra. Ou tu te dis, cette personne-là, ça va être difficile de développer une narration avec elle parce qu'on peut pas tirer le fil plus loin, quoi. Il n'y a pas grand-chose à raconter autour d'elle, quoi. Et donc déjà, ça, tu fais de son écrémage au repérage. Puis ensuite, tu sélectionnes des personnes avec qui tu vas essayer de filmer. Tu vas essayer d'avoir des moments de cinéma, de filmer, etc. Et là, tu te rends compte directement que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui ont une cinégénie, quoi, qui passent beaucoup mieux à l'écran, qui sont beaucoup plus à l'aise, qui dégagent quelque chose. Et voilà, tu es naturellement amené vers ces personnes-là. Et ensuite, tu as l'étape du montage. Et là, en fait, tu te prends en pleine face la réalité de la narration, qui est qu'à un moment, tu as envie de mettre plein de gens, mais tu peux pas faire un film avec 40 personnages, donc tu vas devoir sélectionner. Et ça, ça va être une question de montage, gérer les équilibres entre les personnages. Et au montage, on a vraiment eu dû faire des choix entre 5 personnages, on en a gardé 3. Et il a fallu les équilibrer en sachant qu'ils étaient tous les 3 complètement différents dans leur manière, dans l'énergie qu'ils donnaient, dans les informations qu'ils donnaient. Et donc voilà, c'est vraiment un travail hyper intéressant. Qui va toucher à plein de choses, pas qu'à l'image, quoi. Ça, tu vas aussi réfléchir en termes de réflexion du spectateur, du message que tu fais, de l'idée que tu veux transmettre. Et donc voilà, en réfléchissant, en associant tous ces éléments, tu constitues un peu ton montage et puis ton film final. Et parfois, il y a des personnages qui passent à la trappe, pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais juste parce qu'ils ne trouvaient pas leur place en fait, dans l'histoire.
Okay. Et pour rebondir du coup sur le message que vous vouliez faire passer à travers ces différents témoins, c'est quoi ? Est-ce qu'il a changé du début quand vous avez lu votre article jusqu'à la fin quand vous avez filmé ? Est-ce que vous pouvez nous
parler ? Moi, le film, à la base, les premières lignes, moi je voulais suivre une pêche, donc un fruit qui avait disparu dans la région. Une pêche en particulier. À cause de la catastrophe, parce qu'en fait, la plante était plus cultivée, parce que les territoires où elle poussait sont trop radioactifs. Et j'ai essayé de creuser ce truc-là, mais en fait, c'est tombé rapidement à l'eau. Et ensuite, bah, voilà, en faisant des recherches pour ça, j'ai rencontré d'autres personnes et je me suis rendu compte de la situation des gens qui vivent dans des villes au milieu de la nature contaminée. Puis je me suis dit, ah, ça, c'est quand même plus fort. Mmh. Et ça permet aussi de raconter une histoire qui est un peu dans la continuité de l'évolution d'une catastrophe. Je fais juste une rapide parenthèse, mais on imagine que la catastrophe, c'était le jour de la catastrophe, mais en fait, non, elle a toujours lieu, la catastrophe. Et ça, c'est un truc important quand même à dire sur la catastrophe nucléaire de Fukushima et les catastrophes nucléaires en général, c'est que c'est pas une date, en fait. Mmh. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Mmh. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui a évolué ? C'est ta question, c'était...
Oh. Oui, c'était sur l'évolution, mais du coup, vous l'avez un peu...
Tu peux me tutoyer. Hein. Mais j'ai... ouais, donc c'était l'évolution de la narration. Mm-hmm. Et puis les personnages, par exemple, on avait été parti sur un... À la base, on voulait filmer un pêcheur. Donc on a suivi un pêcheur qui continue à pêcher du poisson radioactif. Puis en fait, voilà, ça prenait trop de place dans le film. Mm-hmm. C'était un film dans le film. Donc mm-hmm. finalement, tu te dis, bah, ce sera peut-être un autre film sur le pêcheur. On a suivi une femme qui avait des enfants et qui s'était... enfuie de Fukushima et qui se bat pour que, en gros, on analyse la thyroïde des enfants partout dans le Japon, etc. Encore un personnage intéressant, mais ce n'était pas le sujet du film. Le sujet du film, en fait, on s'en est rendu compte au fur et à mesure, c'était qu'est-ce que c'est que de vivre dans un espace contaminé et surtout le risque non partagé du danger nucléaire, à savoir le fait qu'on sacrifie des campagnes. On met des installations et des infrastructures énergétiques dans des campagnes pour nourrir des mégalopoles hyper consommatrices d'énergie qui, elles, sont complètement déconnectées des risques issus de leur propre consommation. Donc ces deux éléments-là, donc cette hyper consommation déconnectée des campagnes et la question de vivre dans des espaces contaminés, c'est ça qui est devenu le sujet du film.
Où on s'intéresse en effet à ces personnages. Je pense que de prime abord, on peut se dire, mais pourquoi ces personnes continuent à vivre là, en fait ? Et le film le montre assez bien, tout le monde n'a pas eu ni la possibilité, ni l'envie de partir, en fait.
C'est ça. Alors, c'est hyper vaste comme sujet, donc voilà, on est limité dans le temps, je regarde le chrono. Mais pour faire simple, il y a plusieurs types de profils. Donc, il y a les gens qui sont partis et qui ne sont jamais revenus. Il y a les gens qui ont voulu partir, qui l'ont fait, mais qui n'ont pas eu d'aide, et du coup qui ont galéré de ouf, et qui sont quand même revenus, malgré eux. Et puis il y a les gens qui ont décidé de rester. Et à ça, maintenant, s'ajoute, de manière contemporaine, une quatrième catégorie de personnes. C'est des gens qu'on invite à venir, en les finançant, pour donner l'impression que la région est vivable. Et ça, c'est le cas de la vieille dame, Madame Kokubun, dans notre film, à qui on paye la maison. Qui reçoit de l'argent du gouvernement aussi pour vivre là, on lui paye ses factures. Et la seule condition pour vivre là, c'est d'une part de vivre au moins 15 jours dans ta maison par mois, et ensuite de prouver un travail dans la région, donc de prouver que tu crées une activité économique. Mmh. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Japon, les personnes sont très âgées, et il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes âgées en fait, qui décident de venir à Fukushima dans ces lotissements un peu bizarres au milieu de la nature radioactive, parce que il n'y a pas vraiment de système de pension comme nous on pourrait avoir, et pour eux c'est un moyen de sortir de la précarité financière, sauf qu'on leur met une autre couche de précarité dessus, à savoir une précarité du fait de vivre isolé, où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien autour, et d'être obligé de travailler à plus de 70 ans. Mmh. Et la plupart du temps, les travaux qu'ils vont faire, c'est s'occuper des routes, faire la signalisation, et Madame Kokubun, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'occupe d'autres vieilles personnes, quoi, dans un centre pour vieilles personnes. Image qu'on n'a pas mis dans le film, qu'on aurait pu, tu vois, encore un choix de montage, hein, mais parce que voilà, le film à un moment était trop long, c'était compliqué, mais il y avait des belles scènes avec elle qui s'occupait d'autres vieilles personnes qui ne se trouvent pas dans le film. Voilà, c'est comme ça.
Choisir, c'est renoncer.
C'est ça.
J'allais demander, on a un personnage quand même un peu important, je me souviens plus de son nom, mais qui fait régulièrement, qui passe régulièrement avec un camion, avec des mégaphones pour s'adresser à la population, pour faire de la sensibilisation. Et ça rejoint ce dont tu parlais par rapport à la déconnexion, que j'ai l'impression comme si Fukushima, c'était un peu une île quelque part dans le Japon qui était entourée d'une grande clôture et que tout le reste du Japon ne savait pas du tout ce qui se passait. C'est assez particulier, c'est courageux aussi ce qu'il fait. Et en plus, dans ces scènes-là, je trouve que c'est aussi représentatif de cette culture japonaise qui est très différente de la nôtre, parce que très régulièrement ce genre d'interaction, ça commence par désolé de vous déranger, enfin c'est beaucoup dans des formules de politesse et tout, que nous en Europe on n'a pas trop l'habitude de faire, donc j'imagine que c'était voulu aussi de mettre une emphase sur ça.
Le film à la base s'appelle Mokunin, c'est le titre du film au Japon, parce qu'on arrive à le faire diffuser au Japon, donc ça c'est cool. Et Mokunin en japonais, ça veut dire accepter le silence ou accepter le renoncement. C'est le consentement tacite en gros. Vous avez cette image des singes qui se bouchent les oreilles, se cachent les yeux, se cachent la bouche. C'est un peu cette idée-là, le Mokunin, c'est qu'il vaut mieux pas parler des choses mauvaises, il vaut mieux pas les entendre, il vaut mieux pas les voir. Elles n'existent pas comme ça. Et il y a un peu cette manière de réagir de la part des Japonais. Alors, les Japonais ont cette capacité à être comme ça, mais je veux dire, faut pas non plus faire des clichés, je veux dire, c'est quand même un truc, ce déni, il est partout, quoi.
Oui, cette omerta.
Voilà, c'est pas que les Japonais, mais c'est vrai qu'eux, ils ont une manière très flagrante de le faire. Et dans ce cadre-là, monsieur Yoshizawa, donc cet éleveur de bovins, c'est un peu Don Quichotte, quoi. Nous, on l'a toujours vu comme ça. C'est un mec qui se bat contre des moulins. Lui dit que c'est des dragons, mais tout le monde dit que c'est des moulins, quoi. Tout le monde s'en fout, en fait. Mmh. Et on est parti avec ça. Et surtout, l'idée aussi que non seulement sa voix se porte très fort dans la préfecture qui est vide, parce que sa voix résonne dans les villes vides, mais quand il arrive à Tokyo, on l'entend plus, en fait, et plus personne l'écoute. Et c'était très fort aussi comme expérience humaine, parce qu'on est monté dans sa camionnette, on s'est tapé les 5 heures de route avec lui, sa camionnette diesel qu'il a fallu remettre 14 fois de l'essence dedans, où ça sentait la vache, quoi, tu vois. Et t'arrives avec ce mec un peu cracra à Tokyo, et tu te rends compte, en fait, de la déconnexion, en fait. C'est pas du tout le même monde. Et lui, il est là, au milieu de tous ces néons, de tous ces touristes, de tout cet argent, toute cette énergie, en fait, qui est opulente et qui n'a pas... On ne voit pas d'où elle vient, en fait. Elle est magique, comme ça. Elle est comme magique, comme si elle apparaissait comme ça. Et alors, ce qui est intéressant avec M. Yoshizawa, c'est que contrairement à beaucoup de Japonais, en effet, c'est quelqu'un qui est dans le combat. Et ça, c'est assez rare. Et pour l'anecdote, le mec, on l'a rencontré par hasard sur la route. Et j'étais avec cette sociologue dont je vous ai parlé, la Cécile Azanuma Brice. Elle me dit « Ah ouais, ça c'est Monsieur Yoshizawa, il fait ça. » Je fais « Ah ouais, mais il faut que tu m'emmènes le voir, quoi. Il est trop fort, ce type. » En plus, moi, quand on l'a croisé, il avait des vaches derrière, il tirait des vaches avec sa camionnette. Enfin, bref, c'était un délire, quoi. Puis t'arrives chez lui, là, c'est un peu Mad Max, avec des rouilles, des véhicules de rouillés de partout. Mmh. Et voilà. Et lui, typiquement, c'est quelqu'un qui avait un visage. Il a quelque chose, quoi. Il t'emmène, ce mec. Il a une tronche, quoi. Et c'est ça qu'on aime dans le documentaire.
Super. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on revient après avec la suite des questions.
Yes.
Aujourd'hui se lève l'aube d'un nouvel âge, né de la découverte et de l'utilisation de la plus puissante source d'énergie de l'histoire du monde. L'énergie qui peut être dégagée à partir de l'atome.
Cash qu'on enterre irradie, ça brille dans la nuit. C'est joli, moi je veux ma lumière des radis en toute saison. C'est bon.
C'était donc Fukushima du groupe Atomic Ping Pong que j'ai découvert vraiment par hasard en cherchant une musique pour aujourd'hui. Je l'ai trouvé très à propos. Vous êtes toujours sur Radio Campus de l'Université Libre de Bruxelles dans l'émission Scope. Aujourd'hui, on parle du film Retour à Fukushima de Thomas Licata et on va continuer avec les questions qu'on avait à lui poser.
Moi, je voulais embrayer encore une fois sur du coup, ces personnages qui nous permettent de confronter un peu nos mythes qu'on a sur le nucléaire. Et je me rappelle que la décontamination, c'est un élément qui revient tout le temps dans le film. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont vous avez changé votre perspective sur ce mot en faisant ce film ?
Bah ouais, hein. Merci pour cette question. Alors, faut faire attention au langage. On en parlait là un petit peu en off. Donc en gros, le gouvernement japonais, mais on va dire l'industrie du nucléaire et les lobbies du nucléaire, ont parlé d'une forme de décontamination à Fukushima. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Tchernobyl, on a scellé. On a dit ok, ça craint, on ne va pas dans cette zone. Fukushima, on s'est dit, bah, on va réussir à décontaminer, à retirer la radiation des éléments. Sauf qu'en fait, c'est faux. Parce que ce n'est pas possible de décontaminer. On ne peut pas faire disparaître des éléments radioactifs. Tout ce qu'on peut faire, c'est les déplacer, les mettre ailleurs. Et alors, il y a eu toute une campagne de propagande autour de ce terme de décontamination qui fait croire que, comme par magie, on ferait disparaître les éléments radioactifs, qui a été poussée par le gouvernement, notamment pour les Jeux Olympiques de 2020, qui ont été organisés par le parti de Shinzo Abe, feu Shinzo Abe qui a été flingué quelques années après. Et... il y avait cette volonté derrière de donner l'impression que tout était safe, quoi. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ? Ils ont retiré 5 cm du sol sur des territoires qu'ils avaient décidés comme des territoires pilotes de décontamination. Et ils ont rempli des sacs de terre noire qu'ils ont ensuite disséminés un peu partout dans la préfecture. Où maintenant, il y a une nouvelle politique qui est mise en place, c'est carrément de récupérer ces terres et de les mettre un peu partout dans le Japon. Il y a même un slogan qui s'appelle, enfin en japonais, c'est la radioactivité près de chez vous. Donc, mais c'est pas une blague, quoi, c'est sérieux. Et ça, c'est une de leurs solutions. Ou alors, l'autre solution, c'est ce qu'ils appellent les ALPS. C'est un système d'irrigation d'eau qui est censé nettoyer la terre avec différentes pompes, et ensuite mettre ça dans des citernes qui ensuite seront déversées dans l'océan Pacifique. Donc on voit bien là, en fait, qu'il y a un terme décontamination qui est juste là pour faire croire, quelque part, qu'il est possible de résoudre l'accident, mais en fait, on ne le résout pas, on le dissémine. Mmh. On ne fait pas disparaître les choses, on les enterre ou on les apporte à d'autres endroits. Voilà, je voulais juste insister là-dessus. Et moi, j'ai vraiment pris conscience de ça en allant sur place, parce qu'il y a vraiment des éléments qui apparaissent dans le film. Par exemple, des camions comme ça, avec des banderoles vertes dessus, ou les kits transportent de terre radioactive. Ça, c'est vraiment un visuel particulier de la région. Ou ces barrières devant des allées avec des croix qui disent de pas aller, parce qu'en fait, derrière se trouvent des sacs radioactifs. Et ça crée en fait tout un territoire, toute une ambiance qui était intéressante de filmer. Et c'est ça, en fait, la catastrophe qui continue. C'est pas juste des gens qui ont des mutations et qui tombent malades. Non, c'est que le territoire est complètement modifié. On le rase, on détruit les maisons, on détruit les forêts, on détruit les montagnes. Et tout ça, on en fait des déchets qu'on entrepose dans des endroits qui vont rester comme ça pendant des centaines d'années. Que vont devenir ces endroits? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, donc décontamination, non. Dissémination, oui.
Mais j'avais aussi réalisé que, en fait, c'est tout un processus qui sert à juste rester dans l'action, mais à aucun moment, et ça c'est quelque chose que du coup de Cow Terrorist nous le rappelle, Codzilla nous le rappelle tout le temps, en fait il y a aucun moment où on a un débat sur la responsabilité, et en fait tout ce que le gouvernement met en place, décontamination, en fait c'est juste rester dans l'action pour refuser de poser les vraies questions de qu'est-ce qu'on fait de cette question du nucléaire, et oui ou non, si oui, vu qu'on a décidé oui, qu'est-ce qu'on fait? Comment?
Ouais. Alors, tu voulais peut-être poser une question. Ouais. En fait, je pense que déjà, il faut revenir sur Godzilla, donc juste parce qu'on l'a pas expliqué, mais le personnage Yoshizawa, donc l'éleveur dans le film, fait un jeu de mots parce qu'il élève des vaches et qu'il est né le même jour que le film Godzilla. Il se fait appeler Godzilla, et donc il y a tout un jeu dans le film avec ça. Il diffuse la musique de Godzilla, etc. Donc juste pour la petite anecdote. Et en fait, pour revenir sur ce que tu disais, tout ça s'explique aussi par une manière de voir la situation de manière techno-nationaliste.
Oui.
Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, le Japon est un pays très tourné vers la technologie depuis très longtemps, qui est à la pointe aussi de la technologie nucléaire, qui est un pays auquel on fait appel dans d'autres pays pour vérifier des centrales, pour construire des centrales, pour faire des normes, etc. Et donc, un pays qui est à la pointe comme ça de la technologie, qui se voit avec un accident pareil, c'est dur pour lui, en tant que gouvernement, de se dire on a foiré, en fait, on ne maîtrise pas notre technologie. Donc, il y a une espèce d'orgueil, quelque part, aussi, de se dire non, en fait, on est tellement fort qu'on va trouver la solution scientifique et technologique pour nettoyer les crasses qu'on a fait avec notre industrie nucléaire. Et cette solution d'ingénieur, c'est la décontamination / dissémination, à savoir... Oui, il est possible de décontaminer, de déplacer les trucs à gauche, à droite, de retirer la radioactivité, ce qui est évidemment pas vrai, comme on l'a démontré juste avant. Mais ça va très loin, ce truc-là, parce que, vous savez, sous la centrale de Fukushima, il y a ce qu'on appelle du corium. Mmh. Alors, le corium, c'est un mélange de matière fissile, qui a fondu, quoi, avec le métal et des matériaux radioactifs et l'eau, et ça crée un truc hyper chaud, un cœur encore en fusion, quoi. Et ce corium, ils envoient des petits robots qui, gramme par gramme, en extrait des morceaux. Et ils estiment que d'ici 40-45 ans, ils auront retiré tous les morceaux de corium, quoi. Donc on est dans ce genre de techno-solutionnisme qui te met sur des marges de manœuvre très, 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 très longues. Et voilà. Donc le techno-nationalisme explique aussi cette décision, quelque part, de ne pas prendre de positionnement par rapport au nucléaire. Mais de toute façon, comme on l'a déjà dit, la position a déjà été prise. Déjà, elle est prise par le gouvernement actuel de Sanae Takaishi, qui est la digne héritière de la pensée de Shinzo Abe. C'est à fond nucléaire, indépendance énergétique, blablabla, enfin, ce qu'on nous ressort toujours. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a évidemment cette question du « j'ai perdu le fil
». Ça nous arrive à tous.
Mais moi, j'aurais dit que la population aussi, elle a déjà choisi, en fait, au final, sens où personne ne dit rien. Du coup, dans le silence, voilà, on accepte le nucléaire, en fait.
Et personne n'est prêt à la décroissance.
Ouais. Mais j'ai retrouvé le fil. Du coup, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en fait, la décision, elle a déjà été prise dans le passé. À partir du moment où on a basé tous nos systèmes de consommation sur des infrastructures liées au nucléaire, les démanteler, ça prend un certain temps. Et donc, on est tellement allé loin, en fait, dans cette consommation énergétique, qu'on s'est mis des boulets aux pieds, quoi. Et le temps de se défaire de ces boulets, c'est sur des très très longues années, et aujourd'hui, les mécanismes qu'on met en place pour en sortir sont presque inexistants. Mmh. On est plutôt dans la relance et dans la continuité de ce qu'on avait avant, quoi.
Et moi, c'est un moment que j'ai trouvé très fort dans le documentaire. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à avoir cette approche factuelle vis-à-vis des catastrophes nucléaires et du nucléaire en général. Et puis, on suit cette femme âgée sur les terres ancestrales de sa famille, où la maison où elle a grandi, où son frère vivait, a dû être abattue. Et en fait, pour moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que ces gens, ils ont vécu un immense trauma, en fait. Il y a eu un tsunami qui a débouché sur une catastrophe nucléaire, et tout ça, ils ne l'ont pas vécu de loin, comme quelque chose que nous, on a pu voir aux infos en étant plus jeunes. Non, ils l'ont vécu dans leur chair, dans leur terre, et je trouvais ça très fort dans le documentaire.
Ouais, c'est encore un moment, c'est ça qui est chouette aussi dans les tournages de documentaires, c'est de vivre des moments. En fait, à un moment, les personnages vont t'offrir des moments d'humanité comme ça. Tu vas te retrouver avec eux, et puis ils vont se laisser aller au jeu, en fait. La caméra va aussi être une forme de... va être libératrice, en quelque sorte, de personnes qui, de base, ne sont pas... ne vont pas en parler, parce que moukounine, parce qu'elles sont timides, parce que plein de raisons. Mais le fait de poser une caméra, parfois, ça peut être même salvateur. Alors, je dis pas qu'on est des psychologues, hein, mais je pense que dans certains cas... ce moment salvateur, il est aussi intéressant d'un point de vue cinématographique, et le capter, puis le mettre en montage, parfois l'exacerber aussi, parce qu'on va le travailler au montage pour renforcer certaines émotions, c'est ce qu'on aime faire en fait, c'est pour ça qu'on fait du cinéma. Et en effet, c'est des personnes qui ont vécu des traumatismes terribles, qui y réagissent de manière différente, mais je veux dire, elle, elle a perdu sa maison, elle a perdu ses ancêtres, Yoshizawa, il est revenu chez lui, donc l'éleveur, il est revenu chez lui, il a vu des cadavres de 300 vaches qui pissaient le sang, remplis de vermisseaux, et on lui a interdit de les enterrer, il pouvait même pas y retourner, il a dû aller en cachette, enfin c'était n'importe quoi quoi. Et en fait tout ça, pourquoi ? Alors il y a eu effectivement les accidents naturels, ça c'est la nature, on n'y peut rien quelque part, mais aussi parce qu'on a décidé de mettre ces personnes-là dans un périmètre qu'on estimait comme un périmètre qui pouvait être destructeur autour de la centrale. Et donc c'est une décision qu'on a prise, voilà, ça fait partie des décisions qu'on a prises. Vous installez une centrale nucléaire quelque part, vous prenez la 0,1% de chance que toutes les personnes qui habitent autour perdent leur maison, perdent leur histoire, perdent leurs animaux. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne solution en fait à partir du moment où on veut installer ce genre d'infrastructure. Il n'y a pas de bonne solution dans la construction d'une centrale nucléaire, je veux dire. Voilà, c'est, le risque est pris une fois qu'elle est là, qu'elle est implantée. Il est minime, mais il est quand même là, quoi.
Et bah, du coup, le Japon a une longue histoire de catastrophes nucléaires dans le passé et encore aujourd'hui. Je ne sais plus c'est quoi son nom, c'est le Nankai qui va probablement arriver dans les prochaines années. Comment est-ce qu'ils perçoivent cet accident et le risque nucléaire ? Parce que Fukushima est encore présent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un mini débat national ? Est-ce que les gens y pensent ?
En général, les traumas, c'est des moteurs de création. Mmh. En tout cas, moi, j'ai l'impression, dans les cultures, c'est souvent le cas. Et pour le Japon particulièrement, moi, étant amateur de manga, mais aussi de films d'animation, on constate qu'il y a une espèce de ligne de temporelle, comme ça, depuis 1954, avec le Godzilla, où on voit plein d'œuvres japonaises qui ont traversé les pays et qui parlent de ça.
Oui, donc, dans les films de Miyazaki aussi.
Par exemple, les films de Miyazaki, La Vallée du Vent, monde post-apocalyptique qui se reconstruit après un accident, enfin une guerre nucléaire. Akira, qui est un grand film d'animation japonais, qui s'ouvre sur quoi ? Sur une explosion nucléaire. La Gen d'Hiroshima, c'est peut-être un peu moins connu, mais c'est une bande dessinée des années 80 qui était très connue, où on voit des gens qui sont défigurés, qu'on appelle les Ibakusha, donc les personnes qui ont vécu le trauma de Hiroshima. Pikachu, en fait, le Pikadon en japonais, c'est l'éclair de Hiroshima. Mmh. Donc c'est la lumière blanche qu'ont vu les Ibakusha, donc ces personnes qui ont vécu l'accident, enfin la bombe nucléaire de Hiroshima. L'éclair qui est tombé du ciel, on appelle ça le Pikadon. Et Pikachu, c'est clairement une ode, mais un...
ça rappelle.
Oui, c'est ça. C'est une. Moi, je dirais que c'est le sommet de l'optimisme nucléaire, Pikachu.
La ferme de l'espoir. Quoi, tu vois.
Mais même, il y en a Dragon Ball. Dragon Ball, c'est l'histoire de jeunes gens à qui on donne des pouvoirs surnaturels, qui vont balancer des boules d'énergie pour faire exploser des planètes. Enfin, vous voyez que dans l'histoire japonaise et dans la production culturelle, la bombe nucléaire, mais le nucléaire de manière plus générale, est hyper présent. Et ça se voit aussi à travers les discussions qu'on peut avoir avec les Japonais plus âgés. Par contre, c'est vrai qu'il y a un désintérêt assez fort de la politique chez les jeunes. Et d'ailleurs, c'est un de mes regrets sur ce documentaire. Et j'aimerais creuser plus cette question à l'avenir. C'est d'aller voir les jeunes, en fait. Et on en a filmé, mais les seuls jeunes qu'on voit, c'est des jeunes qui sont dans des musées, etc. Mais il n'y a pas cet intérêt, malheureusement. Il y a une dépolitisation très forte de la jeunesse.
Mais j'allais te demander justement par rapport à ça, est-ce que c'était aussi un choix de ne pas avoir interviewé que ce soit des scientifiques ou même des politiques par rapport à tout ça ? Tu as fait le parti pris de dire je veux vraiment filmer les gens et avoir leur point de vue ? Ou c'est juste parce que tu n'en as pas eu l'occasion ? Je ne sais pas.
Si, j'ai eu l'occasion, mais en fait, je vais revenir sur un truc que je disais par rapport au financement des films. Donc on a été financé par la RTBF et donc quand tu te fais financer par une télévision, en général tu dois faire une version pour la télévision. Mmh. Qui dit version pour la télévision dit version moins auteur entre guillemets, donc une version avec plus d'interviews, etc. Mais quand tu fais un deal avec la télévision, tu dois choisir ta case. Est-ce que tu es dans la case société, dans la case science, etc. Et donc, tu vas orienter beaucoup tes dialogues et tes rencontres avec ça. Mais j'ai quand même rencontré, par exemple, Nato Kan, qui était le premier ministre japonais de l'époque, lors de Fukushima, qui était d'ailleurs un premier ministre de gauche, qui ensuite a démissionné. On l'a rencontré, on l'a enregistré, etc. Mais il se trouvait que c'était trop frontal. On était dans un dispositif d'interview qui ne nous intéressait pas. Et en fait, de manière générale, toutes ces questions scientifiques, éthiques, c'était des éléments difficiles à amener dans un film d'auteur qui était plus de l'ordre du sensitif. Et je ne voulais pas casser la dynamique du film en mettant un système d'interview face cam. Il y en a un petit peu dans le film, les débuts avec Madame Kokoboun, etc. C'est un petit peu face cam. Mais c'est quelque chose dont j'essaye de m'éloigner, quoi. Je trouve ça plus intéressant de raconter des choses sans devoir les dire.
Et d'où l'absence de voix off aussi dans le documentaire.
Bien sûr. Mais après, la voix off peut être super. Ça, c'est vraiment à chacun de faire comme il a envie de faire. Moi, je trouve ça plus, plus chouette de me creuser les méninges pour essayer de raconter une histoire sans devoir passer par les mots, en essayant de la raconter par des plans, faire du cinéma.
C'est l'exercice surtout du documentaire qui est assez compliqué, c'est que tu pars pas avec un scénario, en fait, tu construis l'histoire à travers les rushs que tu fais, quoi.
Et souvent, t'es surpris par le réel. Et ça, c'est trop bien. Bah, par exemple, il y a une séquence dans le film, un plan séquence, où il y a un mec qui vient vendre des médicaments pour la chiasse de veau à Monsieur Yoshizawa. Je sais pas si vous vous rappelez de cette séquence-là. Donc, un plan séquence. Alors, on dirait que le truc, c'est un acteur qu'on a payé, mais en fait, non. Il y a vraiment un gars qui arrive. Donc, faut vous imaginer le truc, quand même. On est le seul éleveur de vaches de la région de Fukushima. Donc d'office, ces vaches sont radioactives. Il y a un mec qui vient pour une entreprise de médicaments, qui se gare, mais parfaitement dans l'axe de la caméra, qui fait vraiment un truc de japonais. Il sort sa carte et tout, et il dit « Voilà, désolé de vous déranger. Voilà, je représente la société pharmaceutique nanana et je vous vends des médicaments probiotiques pour la chiasse de vos veaux. » Et le mec lui dit « Mais en fait, il n'y a pas de veau ici, c'est des vaches radioactives. » Et puis bam, et là, ça part dans un plan séquence où ils discutent. Et ça, c'est cadeau du réel, quoi. Et moi, je crois, je ne suis pas croyant, je ne suis pas catholique, mais je crois qu'il y a des dieux du cinéma qui nous offrent une lumière parfaite ou des séquences avec des personnages, ça c'est sûr.
Quelle belle conclusion. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Priscilla ou Sarah.
Non, mais parle-nous un petit peu de la vie qui s'annonce de ce film en salle.
Bah alors, ici, première à Liège le 20 mai. Il y a une petite vie en festival un peu partout, mais bon, ça c'est compliqué, j'ai pas les dates en tête. Sinon, il sort à Bruxelles à partir du 26, je serai présent le 26 à l'aventure. Il va rester à l'affiche minimum 2 semaines, mais si vous êtes sympa et que vous venez nombreux, peut-être plus longtemps.
Oui, c'est possible, regardez ce qui se passe avec Res Nullius pour l'instant, le film cartonne parce que les gens y vont, donc allez-y.
Voilà, il faut faire vivre le cinéma d'auteur. Et 27, à partir du 27, c'est à Namur, donc au caméo. Voilà, et puis on aimerait avoir... Donc il y aura une... Ça va être diffusé aussi à Louvain-la-Neuve à partir du 5 juin au Pathé. Et alors, il va y avoir une sortie à partir de septembre, mais c'est beaucoup plus tard.
Une chose
ça.
À la fois.
Voilà.
Et est-ce que tu as déjà d'autres projets dans la boîte dont tu pourrais nous parler ou vraiment en ce moment tu es
plus... Si, je peux, je peux en parler. Bah, et là, déjà, je reviens d'un mixage d'un autre film, donc je ne peux pas parler. Mais sinon, pour l'avenir, disons qu'il sera fait de glace, de rouille et de pétrole.
Okay.
Joli teasing.
On prend note.
Est-ce que tu as éventuellement, je ne sais pas, un compte sur les réseaux sociaux où les gens qui seraient intéressés de suivre tes créations pourraient...
Alors moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais par contre, on a fait un site, retouraafukushima.com.
Oui, celui dont tu parlais au début.
On peut tout avoir comme référence dessus. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Allez voir le film, il est super chouette. Et puis revoyez aussi les classiques, hein, Godzilla, Miyazaki, tout ça. Ça vaut la peine de revoir ces films-là avec le prisme de cette question du nucléaire et de l'énergie atomique.
Je peux aussi placer en recommandation la série Netflix Tchernobyl que j'ai trouvé vraiment super parce qu'elle elle accentue beaucoup tout l'aspect psychologique et surtout bureaucratique qui a mené à cette catastrophe et qu'on comprend que très souvent ce genre de catastrophe, c'est pas spécialement un problème technique en soi, c'est surtout une conséquence de cascade de choses qui ont été décidées de façon assez scandaleuse. Donc voilà, très chouette aussi. Écoutez, je crois qu'on peut arrêter là-dessus. Je remercie encore Thomas d'être venu nous voir dans l'émission.
Merci.
Merci à Sarah et à Priscilla pour nous avoir posé toutes ces questions aujourd'hui. Et quant à nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine à 16h pour une nouvelle émission. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Ciao.
Ciao. Merci. Sayonara.